Le temps ne fait rien à l'affaire sur Marmite FM. C'est reparti, comme tous les mercredis, à cette heure-ci. Le temps ne fait rien à l'affaire vous propose pendant une heure un petit tour autour de la chanson. Le temps ne fait rien à l'affaire, une émission préparée, accommodée, mitonnée, mijotée par Jean-François. Le temps ne fait rien à l'affaire sur Marmite FM 88.4.
Les chants des hommes sont plus beaux qu'eux-mêmes. Plus lourd d'espoir, plus triste, plus durable, plus que les hommes. J'ai aimé leur chant, j'ai pu vivre sans les hommes. Jamais sans les chants, il m'est arrivé d'être infidèle à ma bien-aimée. Jamais au chant que j'ai chanté pour elle, jamais non plus les chants ne m'ont trompé. Quel que soit leur langage, j'ai toujours compris tous les chants. Rien dans ce monde de tout ce que j'ai pu boire et manger, de tous les pays où j'ai voyagé, de tout ce que j'ai pu voir et apprendre, de tout ce que j'ai pu chercher et comprendre, rien, rien ne m'a jamais rendu aussi heureux que les chants, les chants des hommes.
Dans quelle petite ville du Poitou-Charentes, il y a un musée du moulin à café. Et on ne voit pas pourquoi il n'y aurait pas un musée du moulin à café. On trouve ça bien. C'est sympa, quoi. Donc, c'est assez étrange de voir que dans ce pays, la notion de patrimoine est valable pour absolument tout, sauf pour la chanson française. Et donc, on devrait, si on faisait une psychanalyse nationale, une psychanalyse du pays et de sa culture, on devrait là trouver quelque chose de très intéressant à analyser.
Amis des musées du Poitou-Charentes et des moulins à café, bonjour et bienvenue dans le temps de faire rien à l'affaire, l'émission de la chanson non crétinisante, puisqu'on vous le dit, c'est que c'est vrai, sur Marmite FM 88.4, sur les ondes de laquelle vous aurez, puisque fidèles auditeurs, reconnu les chants des hommes de Nazim Hikmet et la voix de Jacques Bertin, notre invité pour aujourd'hui et pour les semaines à venir. Dans cette émission, on ne présente plus Jacques Bertin, qui nous avait déjà accordé un long entretien plusieurs fois rediffusé sur cette antenne, et toujours disponible sur le vieux site de cette émission, www.rienalaffaire.com, et dans lequel il se livrait à notre petit exercice favori, celui de choisir 10 chansons et de les présenter à ce même micro. Écoutez Bertin parler de la chanson, c'est un vrai bonheur auquel j'ai eu envie de goûter à nouveau. J'ai donc proposé à Jacques Bertin de réaliser avec lui une série d'émissions autour d'une idée qu'il reprend et qu'il défend dès qu'on lui en donne l'occasion, celle du patrimoine de la chanson d'expression française. Nous nous sommes donc retrouvés chez lui, à Chalonnes-sur-Loire, en juillet dernier, pour un long entretien sur ce thème. Mais bien sûr, quand on le lance sur cette idée, Jacques Bertin a tant à dire, et il le dit si bien, avec tant de passion, de précision savante, d'enthousiasme toujours, de colère souvent, de mauvaise foi réjouissante parfois aussi, qu'une seule émission ne pouvait suffire. C'est donc pendant, alors, 7 ou 8 semaines, on verra, parce qu'en fait il reste un petit peu de montage à faire, que nous retrouverons Jacques Bertin dans Le temps ne fait rien à l'affaire et nous entamerons cette série de rendez-vous aujourd'hui en réfléchissant pour commencer à cette idée de patrimoine de la chanson à propos de laquelle, toute considération faite sur les moulins à café, Bertin a pas mal à dire.
Il paraît absolument normal et bénéfique qu'il y ait un patrimoine théâtral. qui nous coûte très très cher, mais je ne conteste pas ça, puisque c'est la Comédie Française, qui met telle pièce au répertoire, et puis voilà, et c'est comme ça, et il n'y a personne qui dit « mais enfin, on n'en a rien à foutre, ça ne sert à rien, c'est des vieilleries ». Tous les élèves comédiens étudient Molière et apprennent à jouer Molière, et personne ne hurle en disant « ça nous coûte fort cher pour des histoires de cotillons et de perruques ». Bon. De même, le patrimoine en art plastique nous coûte des milliards, quoi. Hein, tous les musées, ça marche très bien, ça coûte très cher, et tout le monde trouve que c'est normal qu'il y ait le musée du Louvre, etc. Bah, même le cinéma, ça a été un peu plus dur, là, parce que toutes les histoires de Cinémathèque, de Henri Langlois, et il faut que, mais non, mais à quoi ça sert, mais on s'en fout, l'industrie fait ça très bien... Bon, et finalement, enfin, ça fait quand même environ 50 ans que ça marche. Ça fait déjà 50 ans. Alors, pour la chanson française, non, personne ne voit l'intérêt. Même j'ai un jour, bah, il y a déjà, allez, combien, 20 ou 30 ans de ça, que j'ai appris que dans les grandes radios publiques, on avait bazardé les discothèques. Quand j'ai commencé comme chanteur, moi, en 67, on envoyait un disque à la discothèque de la Radio Nationale, quand on sortait un disque. Plus maintenant, ça sert à rien, il n'y a plus de discothèque. Donc, voilà. Et il n'y a pas d'émissions sur les radios, et, alors sur les radios privées, ça les regarde, s'ils sont cons, ils sont cons, ils ont le droit. Mais sur les radios publiques, par exemple, il n'y a pas d'émissions de suivi sérieux sur la chanson française, le patrimoine. Ça, c'est clair, hein. De telle sorte que les grandes chansons de notre pays, ben les jeunes gens ne les connaissent pas, quoi. Ils n'ont jamais entendu ça, ils savent même pas que ça peut exister, quoi. Alors c'est tout bénéfice pour le commerce, évidemment, parce que c'est lui qui gère ça et qui de temps en temps, très rarement d'ailleurs, fait tourner tel ou tel ancien succès. Il y a contradiction entre la notion de patrimoine et la notion de succès, bien sûr. Mais justement, le commerce a besoin de fonctionner avec des succès. Ou des tubes, ou des hits, enfin tout ce que vous voulez, quoi. À partir du moment où la notion de patrimoine existe, ça embête le commerce, parce que ça renvoie les gens à leur goût personnel et à leur culture personnelle. Tandis que quand il n'y a pas de culture personnelle et qu'il n'y a que de la culture collective et de la consommation collective, enfin massive de produits, ben c'est plus facile à gérer pour le commerce, quoi. Je vous dis que, je sais pas quoi, moi, telle chanson est géniale, je vous la balance, et puis vous allez l'acheter à 100 000 exemplaires à chaque fois, etc. Bon, si je sors une très belle chanson, et si surtout j'en sors beaucoup, et si elles survivent, et si elles vivent, quand on va les mettre sur disque, on va en vendre 1000. Puis on la ressortira dans 5 ans, et on va en revendre 1000. C'est pas rentable, enfin je veux dire, ça peut être rentable éventuellement, mais ça, c'est rentable comme un artisan, l'artisanat peut être rentable. Or, eux, ce sont des industriels, bon. Voilà, alors, le commerce joue un rôle régressif sur le plan intellectuel, culturel, artistique, etc. Bon, s'il faut encore prouver ça, ça va, quoi, c'est un peu fatigant, hein.
Dans la chanson de nos pères, Monsieur de Malbrouck est mort. Si c'était un pauvre air, on n'en dirait rien encore. Mais la dame à sa fenêtre, pleurant sur son triste sort, dans 1000 ans, 2000 peut-être, se désolera encore. File la laine, file les jours, garde ma peine et mon amour, livre d'images des rêves lourds, ouvre la page à l'éternel retour. Et nains au ruban de soie, chanson bleue des troubadours, regret des festins de joie ou fleurs du joli tambour. Dans la grande cheminée s'éteint le feu du bonheur, car la dame abandonnée ne retrouvera son cœur. File la laine, file les jours, garde ma peine et mon amour, livre d'images d'air. page à l'éternel retour. Croisée des grandes batailles, sachez voulant se manier, ajustez cottes de mailles, armures et boucliers. Si l'ennemi vous assaille, gardez-vous de trépasser, car derrière vos murailles, on attend sans se lasser. File la laine, file les jours, garde ma peine et mon amour. Livre d'images, des rêves lourds, ouvre la page à l'éternel retour.
Quand je dis le commerce, bien entendu, c'est le grand commerce industriel. C'est pas le petit commerçant. D'ailleurs, il n'y a plus de petits disquaires, justement. Donc, je m'attaque pas aux petits disquaires. Donc, je m'attaque pas au petit commerce, à l'artisan, ni même à la PME, etc. Moi, j'ai fait des disques dans une PME. C'était les disques BAM ou les disques Alvarez. Et bien entendu, il jouait un rôle extrêmement positif, quoi. Que, évidemment, ne jouait pas du tout, Barclay ou des gens comme ça. Ou Phonogramme, ou... Bon. Voilà. Bon, alors, il n'y a pas, ça n'existe pas. Les gens, les jeunes gens ne savent même pas que ça peut exister. Alors, ils entendent comme ça, tout d'un coup, une voix avec un accordéon, une voix avec un piano, ils tombent par terre d'émotion, de... Et alors, voilà, bon... Par ailleurs, les chansons elles-mêmes, les chefs-d'œuvre eux-mêmes, ils ont évidemment une tendance à disparaître. C'est-à-dire, si on était sûr que les belles choses restent dans les cartons ou dans les coffres et qu'elles vont ressortir dans 50 ans, une fois que les deux ou trois générations sacrifiées, là, auront disparu, bon, ce serait encore pas trop grave, on les ressort intactes et on dit « Vous avez vu ça, comme c'est bien ? Oh la vache, bon !» Le problème, c'est que moi, j'ai déjà quelques copains qui sont morts, et d'autres qui sont morts aussi que j'ai connus, qui n'étaient pas des copains, mais qui ont fait des belles choses. Et où sont les disques? Où sont les bandes? Ça disparaît. On ne sait pas que telle chanson qui a été sur vinyle, qui a été jamais remise sur CD, ben voilà, alors il y a peut-être encore des gens dans un grenier qui ont ça. Espérons-le, hein? Espérons-le. Mais donc, ça pose un problème. Chez Universal, est-ce que vraiment ils savent que dans la salle 27B, dans l'étagère 272X, et dans le fond du carton, là, qui a pris l'eau d'ailleurs la semaine dernière, parce qu'il y a eu une fuite de chauffage central juste à cet endroit-là, il y a la bande magnétique à moitié effacée maintenant, de toute façon, du disque que Intel a fait en 1952, sur lequel il y avait 12 chansons, dont, alors, ça, parce que c'est comme ça que ça se passe, vous faites 12 chansons sur un disque, à l'époque, hein. Bon, il y en a 4 qui sont vraiment sans intérêt, il y en a 4 qui sont pas mal, et il y en a 4 qui sont vraiment très bien, et puis il y a un chef-d'œuvre. Mais la bande magnétique, elle, c'est pas ce qu'elle protège et ce qui va prendre l'eau. Tout est mouillé, quoi. Bon, ben, on va balancer ça, quoi. Hein. Voilà, quoi. Bon. Alors, j'exagère peut-être, mais j'aimerais qu'on me le prouve. Et donc, si je donne un nom comme ça, qu'on me dise, mais bien sûr, cher monsieur, et qu'on me ressorte le disque, et qu'on en tire 2000 exemplaires, et j'irai l'acheter au magasin. La preuve, c'est ça. D'accord ? Alors, j'attends que le directeur d'Universal me contacte, et je lui donne un nom, et 6 mois après, je vais au magasin. Et 9 mois après, ou après ce jour-là, on se revoit, lui et moi, et on parle des choses. D'accord? Parce que, oui, bien, ouais, Bertin, t'exagères toujours, ouais. Ah, bon. Donc, voilà, ça, c'est le test.
Le soleil, lui, sur la ville et sur les champs, tout là-bas, paysan, suit sa charrue en chantant. Deux messieurs bien, parlant de chasse et de chiens. dans un bar américain, boivent le whisky du matin. Un enfant bleu dans un berceau de bois blanc, fermant ses yeux innocents, meurt tout doux, tout doucement. La Seine plie sous le ventre des chalands. Sur la berge, deux enfants s'enlacent en souriant. Cent mineurs crient sous le poids d'un continent. Là-haut passe un régiment. Il y aura 10 survivants.
Stéphane Goldman, actualité, et puis tout à l'heure, bien sûr, File la laine de Robert Marcy, chanté par Jacques Douai. Deux enregistrements qui datent respectivement de 1952 et de 1950. Voilà donc deux de ces chansons magnifiques du répertoire dont nous nous ferons le plaisir de parsemer cet entretien au gré de nos envies. Et nous retrouvons Jacques Bertin qui avait donc une proposition à formuler à l'adresse de Monsieur Universal.
Donc si Monsieur Universal m'entend... Je ris d'avance, vous voyez bien. J'imagine Monsieur Universal, il n'existe pas en plus, parce que tout Monsieur Universal n'existe pas. C'est un groupe de gens qui s'achètent des actions, qui ci, qui ça, etc. Bon, voilà. Tout ça pour ramener au problème de base du patrimoine, c'est qu'il ne peut pas y avoir de patrimoine sans action publique, parce que c'est pas le commerce qui fait ça. Donc, si Monsieur le ministre de la Culture a envie un jour de faire quelque chose d'intéressant et d'important, de novateur, si j'ose dire, et de sérieux, il peut peut-être s'intéresser à la chanson française. J'ai un peu suivi depuis 40 ans. J'ai même été chef de service culture pendant 12 ans dans un petit journal, et donc je suivais vraiment l'activité du ministère. Je peux vous dire vraiment, puis avant ça j'étais syndicaliste, etc. Puis enfin bon, j'ai fait partie de tout un tas d'associations sur la chanson, machin. Aucun ministre de la Culture ne s'est jamais intéressé, même de loin, à ce sujet. C'est-à-dire sérieusement à la chanson française. Et tout tient dans cette phrase, je vais peut-être me répéter, tu m'as peut-être entendu dire ça. Un jour, Jacques Blanc, personnage sympathique par ailleurs, qui est le directeur de la scène nationale de Brest. Il est fort sympathique, on discute, parce qu'on n'est pas trop d'accord, mais on se tape pas dessus, quoi. Bon, il est comme tous les institutionnels de la culture, quoi. Donc, j'ai des choses à leur dire et à leur reprocher, quoi. Hein. Mais ça fait rien, c'est pas pour ça que je les étrangler. Et donc, on discutait sympathiquement. Et je lui dis d'ailleurs, lui dis-je, la chanson française, vous n'avez jamais rien fait et vous ne faites jamais rien sur la chanson française. Vous, les scènes nationales, pas lui, Jacques Blanc, les scènes nationales. C'est-à-dire l'institution culturelle de diffusion. Et il me regarde avec des grands yeux comme ça, et il me dit « Mais pourquoi ferait-on quelque chose pour la chanson ? La chanson, elle a le show business. » Mais avec une bonne foi comme ça, totale, quoi. Pourquoi subventionner les arts plastiques ? Après tout, il y a le calendrier des postes. Ça marche très bien comme ça. On n'a pas besoin de... Hein, bon, une vraie rigolade, quoi. C'est-à-dire une absence totale de début de réflexion sur le sujet. Et Jacques Blanc est un des personnages les plus, comment dire, les plus admis, quoi, dans cette profession. Et donc, il faudrait de l'action publique, et il n'en est pas question, et il n'en a jamais été question. Bon, voilà. Hein, ça n'existe pas, et donc, mesdames et messieurs, si vous voulez que le patrimoine de la chanson française et tous les grands chefs-d'œuvre se conservent, il faut que vous en occupiez vous-même en privé. Voilà.
Qui veut ouïr chanson, chansonnette nouvelle, c'est d'un jeune garçon et d'une demoiselle. On fait l'amour 7 ans, 7 ans sans en rien dire. Mais au bout de 7 ans, le galant se marie, le galant se marie. Au jardin de ma mère, il y a un buisson d'ortie. On a fait un bouquet pour porter à sa mie. Tenez, mamie, tenez, voici la départie. À une autre que vous, mon père me marie, mon père me marie. Celle que vous prenez est-elle si jolie? Pas si jolie que vous, mais elle est bien plus riche. La belle, en vous priant, viendrez-vous à mes noces? Aux noces n'irai pas, mais j'irai à la danse, mais j'irai à la danse. La belle, si vous venez, venez-y donc bien propre. La belle n'y a pas manqué, s'est fait faire 3 robes, l'une de satin blanc, l'autre de satin rose, et l'autre de drap d'or, pour marquer qu'elle est noble. Pour marquer qu'elle est noble. Du plus loin qu'on la voit, voici la mariée. La mariée ne suit, je suis la délaissée. L'amant qui la salue, la prend par sa main blanche, la prend pour faire un tour, un petit tour de danse, un petit tour de danse. Bon musicien français, toi qui joues bien les danses, ajoute-moi-en donc une, que mamie puisse entendre. Au premier tour qu'elle fait, la belle tombe morte. Oh belle, levez-vous, voulez-vous mourir par force? Voulez-vous mourir par force? Si mourez pour m'amour, moi je meurs pour le vôtre. Il a pris son couteau, se le plante dans les côtes. Les gens s'en vont disant, grand Dieu, les tristes noces. Ah, les pauvres enfants, tous deux morts d'amourette, tous deux morts d'amourette. Sur la tombe du garçon, on y met une épine. Sur la tombe de la belle, on y met une olive. L'olive crucion, qu'elle embrassa l'épine. L'olive crucion, elle embrassa l'épine, elle embrassa l'épine.
Les Tristes Noces, une très vieille ballade dont il existe beaucoup de versions différentes, dont la plus ancienne remonte au XIIe siècle. Elle était ici interprétée par Michel Bernard, qui l'avait enregistrée il y a quelques années déjà pour la très belle anthologie de la chanson française traditionnelle qui était parue chez EPM. On continue sur le patrimoine avec Jacques Bertin.
Alors, je raconte aussi cette histoire. Il y avait une exposition d'ailleurs remarquable à Lyon, au Musée de la Résistance. Je vous parle de ça, il y a peut-être une dizaine d'années. Une exposition sur la chanson française pendant la guerre. Donc je vais visiter cette expo, et puis elle était vraiment bien, quoi. C'était sérieux, bien, avec beaucoup de choses, et puis pas cliché, quoi. J'étais encore journaliste, donc je demande à voir le responsable, mais bien sûr, il m'accueille de manière très sympathique, et on parle, quoi. Et alors je félicite, je lui dis, elle est bien, votre expo, vraiment, hein. Et je lui demande comment il a fait pour avoir tous ses documents. Alors il me raconte comment il a fait. Alors il me dit, c'est vrai que, alors lui c'est un professionnel hein, de vous voyez bien de ce métier qui consiste à réunir des documents pour faire des expositions. Il dit, mon patron me dit, tu vas t'occuper de ça. Oui, il dit, pas de problème, je sais le faire. Il a l'habitude, quoi. Et il dit, alors, je fais comme je fais d'habitude, quoi. Je regarde les numéros de téléphone et je commence à appeler. Alors, il dit, j'appelle le ministère de la Culture pour dire, est-ce que vous pouvez me passer le service historique ou je sais pas quoi. C'était il y a 10 ans, j'ai un peu oublié les termes exacts qu'il employait. Je vais faire une exposition. Est-ce que vous avez quelque part un service d'archives ou de patrimoine, quoi, justement, de conservation ou de je sais pas quoi, un bureau qui garde, qui sait. Enfin bref, quoi. Alors là, au standard, la personne me dit Et voilà, alors il essaye de chercher comme ça, et il s'aperçoit que il me racontait ça, lui, avec vraiment les bras qui tombaient, hein, et je me suis aperçu qu'il n'y avait nulle part aucun endroit public où on pouvait faire une recherche concernant la chanson française. Alors il n'en revenait pas. Ben, c'était un brave type naïf et intelligent, qui croit qu'il suffit d'être intelligent et candide, et ben non, voilà, c'est comme ça. Alors là, après, la conversation prend un tour navré, parce que il n'y avait nulle part en France aucun service public qui pouvait m'aider en quoi que ce soit, me dit-il. Ni m'aider par des conseils, ni m'aider par des documents. Il dit donc, j'ai commencé à chercher des collectionneurs privés. Toute cette expo, me dit-il, ce ne sont que des documents venant de collectionneurs privés. Donc l'aspect navré, c'était qu'il me disait, et vous voyez, c'était terrible parce que j'allais dans des maisons ou dans des appartements où j'avais des vieux messieurs absolument extraordinaires, avec des collections formidables, et qui étaient absolument, évidemment, éperdus de joie à l'idée de parler de ça à quelqu'un, et de savoir que ça allait servir. Et puis alors, j'empruntais des documents, des affiches, des je sais pas quoi, des photos, des machins. Et quand je partais, le vieux monsieur me disait, vous voyez, hein, c'est triste, hein, parce que j'ai 75 ans, et donc voilà, quoi, il va se passer ce qui va se passer, et je pense qu'après, ça n'intéresse personne, je ne peux faire don de ma collection à personne. Simplement, mes enfants, peut-être, la disperseront. Et dans ces cas-là, bien sûr, soit vous vendez les choses qui ont de la valeur, soit vous distribuez à la belle-sœur, au machin, etc. Puis ça se perd, et puis ça se détruit, puis voilà, quoi, hein, c'est ça qui se passe. Hein. Et donc, à chaque fois, il y avait quand il était sur le pas de la porte, quoi, c'était toujours la même chose, c'était, oui, puis voilà, j'ai fait ça, et puis ça va disparaître. Parce que, vous croyez naïvement, vous, auditeurs, que ce monsieur qui a une collection prodigieuse, il va téléphoner justement au ministère pour dire « Écoutez, l'œuvre de ma vie, j'en fais don à la nation. » Et la nation lui dit « De quoi ? On n'en a rien à foutre de ton truc. » Alors, c'est affligeant de bêtises, évidemment, quoi. Hein, que...
L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Effacez mon passage. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. Et j'ai la France entière. Hier encore nous étions 3, il ne reste plus que moi, et je tourne en rond dans la prison des frontières. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés, l'ennemi il a su. Il est mort sans surprise. Le vent souffle sur les tombes, la liberté reviendra on nous oubliera. Nous rentrerons dans l'ombre.
La complainte du partisan, chanson historique s'il en est, de et par Anna Marly, dans Le temps ne fait rien à l'affaire sur Marmite FM 88.4 avec Jacques Bertin qui continue avec nous d'évoquer cette idée de patrimoine chanté.
Que faudrait-il faire ? Ça c'est une phrase de... Que faudrait-il faire ? Ah bah c'est dans Cyrano, tiens, bah voilà, eh ben on est bien dans... Mais que faudrait-il faire ? Ce serait... pas très dur et ça coûterait pas très cher, hein, de lancer quelque chose comme ça. C'est-à-dire de dire, eh ben voilà, on va ouvrir un centre de collectage, d'archives, sonores ou visuelles, mais principalement sonores, bien sûr, pour créer un lieu de ressources et aussi de recherche historique. C'est-à-dire, c'est pas moi, vous préparez un livre, une thèse, un machin, vous venez et là, vous avez tout. Vous avez tout, parce que c'est normal qu'il y ait tout. Le patrimoine. Alors après, on s'engueulera sur qu'est-ce que tout. D'accord, est-ce qu'on va garder toutes les chansons qu'a écrit ce monsieur-là, qui était plombier? J'ai eu un cas récemment, il y avait un monsieur ici fort sympathique que je croise presque tous les jours sur le quai, là, et parce qu'il promène son chien. On se dit bonjour, et puis voilà, quoi, hein. Bonjour, bonsoir, bon voilà, comme ça. Puis, il apprend quelle est ma profession, et il me dit, écoutez, dites donc, j'ai chez moi un cahier avec des chansons, ça date, oh là là, de 1900, je ne sais pas du tout quoi faire avec ça, est-ce que vous voulez regarder ce que c'est ? Bon, alors, j'ai dit, écoutez, oui, pour vous faire plaisir, mais je ne suis pas Napoléon non plus, hein, je ne suis pas le connaisseur absolu qui va juger machin, mais comme ça, pourquoi pas, c'est sympathique de toute façon. Alors il me le passe, bon, et je regarde ça, alors donc même avant 1900, je crois, 1890, quelque chose comme ça. Il y avait un type qui écrivait des chansons, donc c'est pas un cahier de chansons, hein, c'est monsieur, alors il était militaire, c'était un militaire qui écrivait des chansons, d'ailleurs bien écrites, c'est-à-dire du point de vue de la langue, bien calligraphié aussi, mais sans respect de l'orthographe, du tout. Alors c'était assez curieux quand même, parce que c'était très bien calligraphié, et il savait le faire, quoi. Alors évidemment, c'était pas très original, ni tout ci, tout ça. Ça fonctionnait, si on veut, mais c'était tout ce style des chansons des années 1900, sur je sais pas quoi, il va retrouver Margot à la fontaine, ou bien le petit cordonnier, non, ça c'est un cliché, des histoires d'amour, quoi, des bluettes, alors ça fonctionnait, c'était assez astucieux, mais relativement banal, quoi, bon, voilà. Ce qui était très drôle, c'est qu'il disait pas couplet, alors là, il y a un mystère, c'est qu'à chaque fois, j'ai pris ma loupe, j'ai bien regardé, et c'était toujours écrit sifflet, alors ça donnait... troisième sifflet. Et voilà.
Un truc militaire, de fanfare.
Alors, je sais pas. Troisième sifflet, deuxième sifflet. Bon, il y a peut-être une explication. Moi, je la connais pas. Ben, j'ai rendu à ce monsieur. Je lui ai dit, gardez-le, parce que c'est un témoignage du passé. Mettez ça dans une boîte pour vos enfants, vos petits-enfants, etc. Est-ce que ça vaut la peine, d'un point de vue artistique ou historique? Je ne crois pas, parce que c'est pas suffisamment... fort du point de vue artistique et du point de vue historique, c'est pas assez, à mon avis, spécifique, quoi, spécial, quoi. Ça ne dit pas grand chose de la vie de ce monsieur, par exemple. S'il avait raconté sa vie de militaire dans ses chansons, par exemple, oui, ça pouvait. Là, je lui dis ça. Bon, je lui dis, gardez-le quand même, parce que, bon, et puis peut-être un jour, vous allez trouver un collectionneur qui dira, oh là là, c'est formidable ça, je le prends. Bon, voilà.
Tant mieux si la route est longue, je ferai le tour du monde. Dans une vieille caisse en bois qui vient de Samoa, je vais faire un trois-mâts. Après quoi je trouverai une fille à aimer qui partout me suivra. Riches de tout cet argent brillant sur l'océan, nous irons. Nous laisserons la grand voile traîner dans les étoiles tout du long. Tant mieux si la route est longue, je ferai le tour du monde. Nous irons dans les pays où l'or, les pierreries cachées dans les galions attendent les grands enfants qui ont le soir couchant des rêves d'évasion. Et nous irons dans les îles pour parler de filles et d'amour. On met des chapeaux de lune et des manteaux de plumes en velours. Tant mieux si la route est longue, je ferai le tour du monde. Dans les ports, nous danserons au rythme des flonflons sous les lampions des fêtes. Et nous boirons ces boissons dont déjà seuls les noms vous font tourner la tête. Nous verrons chaque matin le jour monter sans fin au soleil. Nous verrons glisser vers l'eau des sommets bien plus hauts que le ciel. Tant mieux si la route est longue, je ferai le tour du monde. Lavé par les océans, décoiffé par les vents, brûlé par le soleil. Un beau jour nous rentrerons, les yeux pleins de vision, les lèvres à goût de sel. Notre droit m'apportera du poivre ou du tabac, je ne sais quoi. Nous entrerons dans la ville avec cet air tranquille des grands rois. Tant mieux si la route est longue, je ferai le tour du monde. Tant mieux si la route est longue, je ferai le tour du monde.
Le tour du monde, Jean-Claude Darnal en 1955. Une très belle chanson bien sûr, mais qui peut l'entendre aujourd'hui? Qui et où? Proposition de réponse avec Jacques Bertin.
Et donc, voilà, je ne sais plus où j'en étais de tout ça. Et donc, oui, ce serait relativement simple à faire, quoi. Un lieu à la fois de collectage, de muséographie, je ne sais pas si c'est muséo, enfin, un lieu de musée, comment dire, là. Puis aussi, et puis un lieu aussi où on, de ressources, quoi. Et peut-être un lieu de publication aussi. On pourrait très bien concevoir qu'il y ait, par exemple, une revue, d'abord une revue de recherche, mais aussi une revue sonore. Je veux dire que, par exemple, moi, il y a un type chanteur qui a fait de très belles choses, qui s'appelait Jacques Marchais. Il n'était qu'interprète. Il a fait quelques musiques aussi. Bon, il y en a qui sont très, très belles, vraiment. Bon, je ne compte pas sur Monsieur Universal pour ressortir les disques de Jacques Marchais. Donc, j'imagine très bien un centre du patrimoine qui dirait, bon, on va, par exemple, faire une revue mensuelle, sonore, dans laquelle on va tous les mois publier, je dis n'importe quoi, 20 chansons. Alors 20 chansons, c'est-à-dire 200 par an, c'est-à-dire 2000 au bout d'un tas d'années, et puis on reprend, puis on recommence, et ainsi de suite. Bon, je dis un chiffre comme ça, par exemple, dans le numéro de Gnagna, on fait, par exemple, un petit chose spéciale, Jacques Marchais, on lui met 4 chefs-d'œuvre, parce qu'il y a eu des chefs-d'œuvre. Hein. Il est mort, Marchais, il y a des années, hein. Je l'ai un peu croisé, moi, connu. Bon. Ah oui, mais les droits sont chez Universal. Les bandes sont chez Universal. Et donc, on écrirait à Universal en disant, soit vous publiez Jacques Marchais, si vous ne publiez pas Jacques Marchais, c'est de la rétention de droits, enfin on appelle ça de l'abus de droit, quoi. Hein, bon. Et nous sommes un service public et nous allons publier ça. On vous donnera éventuellement vos argents, hein, votre pourcentage, quoi. Hein. Bon bref, c'est techniquement possible, il y aurait sans doute à voir du point de vue légal à arranger la chose, j'en sais rien, hein. Il y a peut-être un article de loi à présenter quelque part, mais les députés font ça toute la journée, je vois pas pourquoi, parce que la chanson française, ah ben non, on n'a pas le temps, hein, bon. Donc il faudrait que le ministre s'en occupe, évidemment, et qu'il sache que ça existe, c'est-à-dire que non pas Jacques Marchais a existé, mais qu'il y a des gens comme ça qui ont fait des choses extraordinaires et que, bon.
De feuillage, douce comme le flanc du vent, affolée comme un feu flambant, dérivante comme un nuage. Elle est la sueur et la nage, elle est le sable en plein midi, une humide touffe de nuit entre la lune et minuit. nuit. La belle et l'opportune, l'indolente, le foin de mai, et parmi ses cheveux défaits, la pluie fine sur les glantiers. Parmi ses cheveux défaits, la pluie fine sur les glantiers.
Alors, donc, est-ce qu'il faut tout garder? Ben, c'était de là que j'étais parti. On peut s'engueuler pendant des semaines sur la question. Mais c'est normal. C'est, justement, c'est ça. Ça consiste aussi en ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que le patrimoine? Mais c'est une discussion permanente. Qu'est-ce qu'il faut garder? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est pas bien? Qu'est-ce qui est le beau? Qu'est-ce qui est pas le beau? Qu'est-ce qui est original? Est-ce qu'on doit garder l'original ou est-ce qu'on doit garder le pas original mais qui est historiquement parlant, etc. C'est une discussion infinie et elle aura lieu là. C'est justement là. Quand vous avez rien, il n'y a pas de discussion, hein. Il n'y a rien. Donc comme ça, les connards de la télé peuvent dire n'importe quoi. Que nous étions obsédés, quand nous, en ce moment ça recommence, là, j'ai encore zappé tout à l'heure, là, et j'entends que on était obsédés par quoi déjà? Ben par le... Il va y avoir une soirée anniversaire du disco. J'ai croisé des gens qui aimaient le disco, mais je veux dire, moi, autour de moi, mes frères, sœurs, cousins, cousines, copains de travail, de nana, ça, ils en ont rien à branler du disco. Ils en ont jamais rien eu à branler. Et on va voir dans cette émission, j'ai eu un instant, l'affreux Claude François, qui a toujours pour moi et tous les proches, et tous mes proches représenté, l'affreux Claude François, quoi. Oh, pitié, non, vite, éteins tout de suite, quoi. Vous voyez, avec cette petite voix aigrelette, atroce, atroce, mon Dieu, il y a le feu, vite, éteignez. Bon, eh bien non, et vous voyez, alors, les enfants, les gens qui ont aujourd'hui entre 15 et 30 ans, ils vont croire que nous étions obsédés par ça. Comme par exemple, ils croient, alors j'ouvre des parenthèses dans tous les coins, mais dans tous les sens, mais que quand nous étions jeunes, nous pensions qu'à une chose, c'est aller dans les boîtes de nuit. Si vous lisez les journaux, vous allez croire ça. Alors, dans un temps, je parle à un jeune, je dis, tu sais, pour nous, d'abord, on n'y foutait pas les pieds, jamais. J'ai jamais vécu avec quelqu'un qui allait dans les boîtes de nuit, quoi. Hein? Bon. Et en plus, quand on en parlait entre nous, ça représentait le fond du fond du fond de la connerie humaine, quoi, d'aller dans les boîtes de nuit, quoi. C'était vraiment les pauvres cons, quoi. Enfin, faut le dire. Bon. Ben, si vous ouvrez le journal Le Monde, ou Libération, etc., vous pensez que c'était presque comme si c'était un combat de pouvoir aller dans les boîtes, je sais pas quoi. Alors donc, il y a une fausse idée du passé qui se fabrique comme ça, et si on répond jamais, si on ne dit jamais, ben voilà, c'est les connards qui gagnent, parce que l'histoire, c'est l'histoire réelle, mais l'histoire dans les livres ou dans les journaux, et l'histoire de l'art aussi, c'est pareil, c'est la guerre. Hein. C'est celui qui gagne, qui impose la vision qu'il a en l'occurrence, de l'histoire de l'art, quoi. Bon.
Beaucoup de morts dans le journal d'hier, et beaucoup de misère, mais partout. Beaucoup de gens qui restent indifférents. Le lendemain, tout semble déjà moins grave. Je ne voudrais pas que tu vieillisses trop vite. Avant que nous ayons eu le temps de nous arrêter et de nous dire nous sommes heureux, que nous nous regardions encore une fois dans le miroir amoureux des sourires, que je te trouve belle encore une fois. Je veux encore du temps pour offrir ton corps au regard de passage. Gens de passage, prenez cette femme. Possédez-la, un jour elle ne sera plus rien. Montre-toi nu, danse pour eux, possédez-la, qu'elle demeure. Et demeure l'empreinte de ses doigts dans le sol. Je sens maintenant que tout va un peu plus vite. Pourtant nous avons juste 30 ans. Je m'arrête et je te regarde, et je sais profiter de toi. J'arrête le monde et je regarde, car il est plus que temps aujourd'hui de vivre. Je cherche à écrire de plus en plus simplement. Je me préoccupe moins des rimes et des rythmes, car il est plus que temps aujourd'hui de vivre, de repousser la porte que quelqu'un ferme sur nous, inéluctablement. Dans le journal d'hier, beaucoup de morts, puis partout beaucoup de gens indifférents. Nous sommes peu nombreux à veiller. Nous tenons la lampe allumée. Nous repoussons de toutes nos forces le sommeil. Et la lampe nous fait les yeux brillants. Nous tenons la lampe allumée. Nous ne vieillissons pas.
Allez Jacques, ça n'est peut-être pas toujours les connards qui gagnent, en tout cas pas ici, cette petite pépite-là de Jacques Bertin, Carnet. Elle a ses 30 ans sonnés, donc on la colle dans le musée et on retourne, pour la dernière fois aujourd'hui, auprès de son auteur.
Puis, voilà, en gros, c'est ça, quoi, hein, refaire circuler des œuvres, permettre aux chercheurs de, permettre, et puis aussi permettre à la veuve de mon copain machin, ou à ce monsieur qui était collectionneur dont je parlais, de dire, écoutez, j'ai une collection sensationnelle, et oui, monsieur, on la prend, bien entendu, quoi. C'est pas très compliqué, hein, tout ça. C'est vraiment, et ça coûterait pas cher, quand on voit ce que coûtent les institutions culturelles. Hein,
Mais alors, ce projet-là, je l'ai lu, il existe depuis un moment. Depuis 2000 ou 2001, le projet du patrimoine, voilà, le projet signé Jacques Bertin. Alors, il a été proposé à quelqu'un, il a été refusé explicitement.
Non. J'ai écrit un texte sur ça que j'ai mis dans un petit bouquin que je vends par mes propres moyens à la fin de mes spectacles. Donc, on en a vendu pour l'instant quelques centaines. Et j'ai bien dit en écrivant ce texte que. J'ai bien ajouté que je n'étais pas du tout décidé à me battre pour ça, parce que dans l'époque actuelle, je sais que ça ne sert à rien de se battre. Je veux dire, je ne vais pas demander un rendez-vous au ministre pour être reçu au bout de 6 mois par un attaché de cabinet qui va me dire « Oui, mais vous savez qu'en ce moment, il y a la baisse des trucs, il faudrait écouter, je ne sais pas, est-ce que vous en avez parlé ?» Et on recommence et on y va. Et puis après, le conseiller régional, qui est un peu pressé, mais enfin, il ne peut pas me refuser un rendez-vous quand même. Je suis Jacques Bertin, un peu connu dans ces milieux. Bon, alors, cher ami, ah oui, ah, bon sang, ma secrétaire m'a passé ça. Oui, ah, c'est formidable, oui, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais écoutez, quand vous aurez un gna-gna, vous me recontactez. Et voilà, et 15 ans après, on y est encore. Non. Il y a des choses en matière de politique, de réalisation de politique qui ne peuvent se faire que parce qu'un jour, le ministre arrive le matin à son bureau et dit « Convoquez-moi un tel, s'il vous plaît. » Oui, et un tel arrive et le ministre lui dit, un fonctionnaire, hein, il lui dit « Dans 3 semaines, vous me présentez un projet sur ça et dans 2 mois, c'est... » Voilà, point. Et ça ne peut marcher que comme ça. Tout le reste, les pressions, les rendez-vous manqués, les rendez-vous repoussés, ça ne sert à rien. À rien du tout. Donc j'ai écrit ça pour moi, pour prendre conscience de ce qu'on pourrait peut-être faire, pour montrer à quelques copains, vous voyez bien quoi, ah oui, tiens, c'est gna, gna. Et puis eux, ils écrivent le leur, ou je ne sais pas quoi, puis on ne sait jamais, mais je ne me bats pas pour ça, non, faut... Mais non.
Le soleil brille pour tout le monde. Quant à la Méditerranée, on se donne la main, on fait la ronde. Et chacun peut en profiter. Faudrait voir à pas mélanger les torchons avec les serviettes, le caviar et la vache enragée, les clochards avec les starlettes. Moi je dis que l'hiver a pas le même goût selon comment on le regarde. Moi je dis que l'hiver a pas le même goût à Megève ou sous le pont de Saint-Cloud. Sur la Seine il y a des bateaux mouches avec des dames en décolleté qui rient très haut et font des touches. Et il y a aussi la suicidée. Faudrait voir à pas mélanger les torchons avec les serviettes, le malheur et l'imbécilité, la fringale et le coup de fourchette. Moi je dis que la Seine n'a pas le même goût selon comment on la regarde. Moi je dis que la Seine n'a pas le même goût vu par en dessus ou par en dessous. Il y a des murs où au matin blême on met en grand les entêtés. Il y a des murs où au matin blême on assassine la liberté. Faudrait voir à pas mélanger les torchons avec les serviettes, les martyrs et les médaillés, les généraux et les poètes. Moi je dis que l'honneur a pas le même goût selon comment on le regarde. Moi je dis que la mort a pas le même goût vu par en dessus ou par en dessous.
À la place du ciel, je mettrai son visage. Les oiseaux ne seront même pas étonné, et le jour se levant très haut dans ses prunelles, on dira le printemps, et plutôt cette année. Beaux yeux, belle saison, vivier de lampes claires, jardin qui reculait sans cesse l'horizon, on fait déjà les foins. Le long de ses paupières, les animaux peureux viennent à la maison. La chambre est encombrée de rivières sauvages. Dans le foyer s'élève une épaisse forêt. Et la route qui tient en laisse les villages traîne sa meute d'or jusque sous les volets. Tous les fruits merveilleux teintent sur son épaule, son sang est sur ma bouche, une flûte enchantée. Je lui donne le nom de la première enfance, de la première fleur et du premier été. À la place du ciel, je mettrai son visage. Les oiseaux ne seront même pas étonnés, et le jour se levant très haut dans ses prunelles, on dira le printemps, et plus tôt cette année. Beaux yeux, belle saison, vivier de lampes claires, jardin qui reculait sans cesse l'horizon. On fait déjà les foins le long de ses paupières, les animaux peureux viennent à la maison.
Eh bien voilà, ce premier rendez-vous avec Jacques Bertin s'achève. Nous le retrouverons la semaine prochaine pour évoquer encore ce patrimoine chanté et en entendre d'autres trésors, comme cette fleur rouge de René Guy Cadou ou le magnifique Point de vue de Martine Méry et Jean Arnufle, chanté par Christine Serre. Nous avons entendu également aujourd'hui Jacques Douai, Stéphane Goldman, Michel Bernard, Anna Marly, Jean-Claude Darnal, Jacques Marchais et bien sûr Jacques Bertin. Il me reste quelques secondes pour vous signaler dans l'actualité chanson de ces dernières semaines l'apparition d'un magnifique coffret de 5 CD de chansons de Francesca Solville dont on reparlera à ce micro. Voilà, merci à Manu qui était aux manettes aujourd'hui, c'était le temps de faire rien à l'affaire, l'émission de la chanson non crétinisante sur Marmite FM 88.4. Salut, c'était Jean-François, à mercredi prochain.